Voilà pour ce document Ligne Rouge avec beaucoup de questions qui se posent ce soir. La certitude, donc, l'intervention d'un tiers et cette mise en scène criminelle, puisque les résultats des expertises ont permis de montrer que le corps n'avait pas été enfoui, qu'il a été déplacé et que les ossements ont été déposés peu de temps avant leur découverte sur ce fameux chemin forestier en mars 2024. Général Daous, comment des ossements découverts 8 mois après la disparition de l'enfant ont-ils pu donner tant d'informations? Le procureur a parlé d'une 60aine de missions d'expertise menées sur ces ossements. Qu'est-ce qui a été étudié précisément?
Tout.
C'est-à-dire
la nature des ossements. Est-ce que les ossements eux-mêmes on pouvait trouver des dépôts métalliques? Est-ce qu'on pouvait trouver des matières chimiques autres que celles qui peuvent constituer l'os? Mais au-delà de ça, c'est quelles sont les fibres qui pouvaient être collées dessus? Quels sont les pollens qu'on pouvait avoir?
Alors attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus parce qu'on a appris un terme.
Eh oui.
Aujourd'hui, on a appris la palynologie.
Oui. C'est l'étude des pollens, la palynologie.
Comment l'étude des pollens peut apporter des éléments d'information?
Alors, je vais vous donner un exemple. Depuis de nombreuses années déjà, avec le département faune et flore forensique de l'IRCGN, on étudie tout ce qui est autour des plantes et des animaux. Et les plantes, c'est intéressant. Vous rentrez dans une maison, vous avez une scène de crime, vous avez quelqu'un qui est décédé, et vous faites des prélèvements. Et sur les prélèvements, vous trouvez des pollens. Et il n'y a aucune plante dans l'appartement ou dans la maison. Donc, ça veut dire que c'est l'agresseur qui a porté ces pollens et par transfert, comme transfert d'ADN ou d'empreintes digitales, etc., les a laissés. Ce qui fait que lorsqu'on a, après les enquêteurs, ils ont un certain nombre de suspects ou autres, eh bien, ils vont s'intéresser lors des perquisitions, qui sait qui peut avoir des plantes? Et si oui, quel est le type de pollen? Et les plantes ont un gros avantage. Comme les êtres humains, elles ont un ADN. Et cet ADN, eh bien, on peut retrouver l'ADN de la plante. Et le pollen peut nous amener, comme ça, à des différents endroits.
Mais alors, dans le cas d'Émile, ces grains de pollen, pollens ont permis de dire que ces ossements avaient été déplacés?
C'est ça. Alors, le procureur a parlé d'un biotope.
De deux biotopes,
mais qui ont permis de déterminer que le corps...
Expliquez-nous, biotope.
Voilà. Biotope, c'est l'ensemble de tout être vivant, quel qu'il soit vivant au sens large, hein. Ça va de la bactérie jusqu'à la botanique avec des plantes, en passant par des micro-insectes ou des insectes beaucoup plus communs, qui entourent et qui sont sur un milieu particulier. Un milieu particulier, ça peut être, par exemple, le biotope de cette pièce, parce qu'il y a des bactéries, parce qu'il y a des acariens, etc., qui caractérisent, ils ont fait leur propre colonie et on saura, si demain il m'arrive quelque chose, que je suis passé sur le plateau de BFM. Donc, il y a le biotope du lieu où on a découvert le corps. Ils ont les propres plantes, les propres pollens, les propres insectes microscopiques ou autres, voire les bactéries. Eh bien, tout ça donne le vivant, la cartographie du vivant du lieu. Sur les vêtements, voire sur les os, et en tout cas sur les vêtements, c'est sûr, on trouve un autre biotope que celui-là. Et ce que l'on a retrouvé, il n'y a aucune référence similaire dans la zone de découverte du corps. Donc, c'est un autre lieu sur lequel le corps a été déposé. Et à partir de ce moment-là, le biotope, naturellement, s'est déposé sur le corps avant que celui-ci soit déplacé.
Mais j'ai regardé aujourd'hui les pollens. On les voit pas à l'œil nu, mais je parle sous votre contrôle. C'est un peu comme des fruits et légumes,
oui.
C'est ça? Si on les grossissait beaucoup, on aurait des tomates, des potirons, des bananes. À l'échelle microscopique, mais si c'était dans le monde réel, ce serait des fruits et légumes. Donc quand on traverse un champ de patates, on a sur nous des patates.
Exactement.
Quand on traverse un champ de tomates, on a sur nous des tomates. Ça s'appelle des pollens, mais à l'échelle qu'on connaît, ce serait ça. Comment on peut savoir? Parce que ça, c'est quand même l'information de la journée. Vous le disiez, Perrine, la mise en scène criminelle. En examinant les os, les restes, il n'y en a pas beaucoup, qu'il a été déposé en forêt peu de temps avant, grâce à nos patates ou à nos tomates, que sont les pollens.
Déjà, c'est le fait qu'il n'est pas sur l'ensemble du vêtement retrouvé, les morceaux ou entiers ou t-shirts, etc. On n'est pas uniquement le biotope là où il a été retrouvé.
Mais comment peut-être
vous parlez
donc pas forcément alors, les ossements.
Les ossements, c'est possible. Moi, j'ai entendu parler du biotope autour des vêtements. Mais s'il y en a sur les ossements, ça veut dire que lors de la décomposition, et je vous rappelle qu'on a qu'une partie du squelette. Ça veut dire qu'il y a eu quand même la lessiveuse avec les orages méditerranéens qui ont eu lieu dans la semaine et les deux semaines avant, qui ont complètement délité le corps. Et on a retrouvé les vêtements à 150 mètres du crâne et des morceaux d'ossements tout le long comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est local est parfaitement identifiable, mais tout ce qui n'appartient pas au biotope du lieu montre qu'il a été posé ailleurs.
Donc c'est comme si la forêt était un champ d'olives, donc il y a plein d'olives sur les ossements, et qu'on retrouve un autre légume qui ne devrait jamais se retrouver là.
Exactement.
Mais comment, c'est pour reprendre la question de Laurent, comment on peut dater, comment on peut savoir que ces ossements ils ont été déplacés peu de temps avant la découverte.
Le peu de temps, c'est pas par rapport aux ossements, c'est par rapport aux vêtements. D'ailleurs, c'est ce que dit le procureur de la République. Les vêtements ne sont pas abîmés tels qu'ils auraient dû l'être après avoir passé de nombreux mois à l'extérieur, entre le soleil, la décomposition du corps, le froid, les intempéries, la neige, l'eau qui coulait, etc., qui, au fur et à mesure, peuvent abîmer, déliter les vêtements et faire en sorte qu'on n'ait plus que de la charpie. Donc là, l'état des vêtements a fait dire au procureur que ça plus ça, il n'a pas été déposé, c'était récent, tout simplement.
Et sur le biotope, vous dites, voilà, on avait deux biotopes, donc on a compris que le corps avait fait, enfin, que les ossements ont été déplacés. Est-ce qu'avec l'analyse du biotope, on peut essayer de comprendre où il a pu être conservé pendant ces longs mois.
La difficulté, c'est en gros, c'est pour les enquêteurs, c'est retrouver un biotope similaire. Et quand on sait que de 50 mètres à 50 mètres, on peut complètement changer un avers, un versant ou autre de biotope, parce que ça, là-dessus, ça porte bien son nom, et le fait que ça soit très localisé, c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin. En fait, qu'est-ce qu'on cherche ? Un, le lieu de l'accident ou du meurtre. On cherche le lieu où le corps a été déposé en attendant de pouvoir le déplacer. Donc, on a trois lieux majeurs. Et dans ces lieux majeurs, chaque fois, on peut avoir des biotopes différents. Mais celui, en tout cas, qui est retrouvé, en majorité sur les vêtements notamment, est différent du biotope dans lequel on a retrouvé ces restes.
Et est-ce qu'eux, ils savent, sans nous le dire, que le premier biotope, ça peut être un biotope d'intérieur, disons, pas en extérieur ?
Ça, oui.
Ils peuvent le savoir.
Oui. Pourquoi ? Parce qu'on peut retrouver des acariens qui sont des acariens d'intérieur, pas des acariens d'extérieur. Parce que chaque population de petits animaux microscopiques là-dessus peuvent le montrer. On peut retrouver des pollens qui sont des pollens de plantes d'intérieur qui ne sont pas des pollens de plantes d'extérieur. On peut retrouver des éléments de pollution intérieur, parce qu'il faut savoir pourquoi on nous invite à aérer très souvent, et notamment on nous demande d'aérer, ce qu'on devrait faire mais qu'on ne fait pas souvent, notre appartement, c'est que la décomposition naturelle de tout notre environnement, que ce soit les plastiques, que ce soit le bois, que ce soit les rideaux, les tissus, etc., avec toutes les teintures, ont un dégagement chimique qui vient polluer l'ensemble.
Mais donc, vous dites qu'ils peuvent le savoir. Donc, ils peuvent le savoir ou ils le savent, mais on ne nous le dit pas.
Ça, je sais pas.
Est-ce que le biotope peut évoluer ? C'est-à-dire, le biotope d'une pièce, est-ce qu'il évolue au cours de l'année ?
Alors, il peut évoluer en fonction de l'aération, en fonction de ce que l'on met à l'intérieur, qui vient accroître l'environnement. Si demain on met une plante, si on change, on met des meubles uniquement en bois, on aura un autre biotope que celui qui est actuellement. Et après, il y a un équilibre qui se fait. C'est un peu comme les bactéries que nous avons sur notre peau ou à l'intérieur de nous, qui font que quand on naît, on a les bactéries que nous laisse notre maman. Là, c'est l'entrée, c'est la naissance. Et au fur et à mesure, ces bactéries en symbiose avec nous, eh bien, deviennent personnelles et différentes de celles de la maman, même si elles avaient au début la même origine. On voit qu'il y a des évolutions possibles.
Alors, par exemple, si on a saisi les véhicules, donc on imagine qu'ils recherchaient de l'ADN. Mmh. Et ils peuvent aussi rechercher le biotope.
Alors, ils peuvent chercher des éléments qui peuvent constituer biotope. Alors, si on va chercher des pollens, on va pouvoir rechercher pour voir si on retrouve les mêmes pollens. Si des pollens particuliers ont été retrouvés sur les vêtements, et si on les retrouve dans le coffre du véhicule, il va y avoir quelque chose. Alors, c'est un élément, c'est une suspicion. Un seul pollen n'est pas suffisant. Je vous rappelle que le pollen a une facilité déconcertante à être transporté par l'air et à se déplacer pour justement que se produise la régénération des plantes et leur multiplication. Mais en fonction de la quantité, ça pourrait être un élément indiciel.
C'est stupéfiant le travail des experts. Est-ce que ça peut nous apprendre
On savait qu'on avait tous un ADN, donc une signature unique. Et puis là, le général Daoust, il nous révèle que chaque parcelle, chaque pièce, chaque mini-univers, chaque lettre, en fait,
une signature
unique.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est le biotope.
C'est vertigineux. D'ailleurs, le policier Christian Fenn se rend compte de
l'étendue des possibles pour les enquêteurs.
Oui, et le biotope, c'est tout ce qui regroupe l'environnement vivant autour de nous.
C'est la signature de l'espace.
Et on comprend bien, du coup, que le travail des enquêteurs est loin d'être fini, parce que pour le coup, il est titanesque, il va falloir retrouver ce biotope d'origine, là où ce corps a été conservé pendant plusieurs mois. Le point zéro, c'est bien ça, la priorité pour les enquêteurs, c'est essayer de retrouver le lieu, la scène de crime, si tant est qu'il y ait eu un crime, parce qu'encore une fois, on ne sait pas si c'est volontaire ou accidentel.
Je pense qu'il y a plein de choses, donc il y a le fait que le corps a été bougé, il y a le fait qu'il y a le vêtement aussi, d'où il sort, donc voilà, c'est des sujets. Si on part de l'idée que peu de temps avant la découverte, le corps a été déposé, qui a borné téléphoniquement, par exemple, dans cette zone-là? C'est des sujets aussi qu'on peut... on peut avoir plein d'idées sur la façon de faire évoluer les investigations.
Mais c'est vrai que ces révélations, elles intriguent, cette mise en scène criminelle intrigue, Boris, parce qu'on se dit que les ossements ont été déplacés. Ça veut dire que peu de temps avant leur découverte, donc mars 2024, donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, ils ont été conservés, quelque part. Oui. Dès la disparition du petit Émile, il y a eu quantité de fouilles, tout a été ratissé.
Mais il y a un élément que vous oubliez quand même, je pense, c'est qu'on est en haute montagne.
Oui.
Il y a des champs à perte de vue, il y a le massif des Évêchés qui culmine à quasiment 2000 mètres d'altitude, le village du Vernet, la plus grosse commune, entre guillemets, quand je parle de commune, vraiment, c'est 2000 maximum, elle se situe à 20 minutes du Vernet, autour du Vernet, il n'y a absolument rien. Si la personne qui a éventuellement commis ce crime, si elle connaît bien la montagne, on peut s'assurer que le corps, si elle le cache, personne.
Oui, mais avec une précision, il n'a pas été enfoui.
Il n'a pas été enfoui, oui.
Donc il a été dans un alors je ne sais pas si c'est un bâtiment, mais quelque chose en dur.
Je vais faire une remarque.
Impossible, on est tout exploré. Impossible, ça, par contre.
Quand il disparaît, il fait très chaud.
Oui.
Donc si on le laisse à l'extérieur, il ne va pas rester longtemps.
Il y a beaucoup de cabanes dans la montagne qui sont désaffectées, d'endroits désaffectés, des hangars, des anciennes usines.
Ça ne suffira pas, vous dites, Christian Fesch.
Sous le contrôle du général Daoust. Avec une grande chaleur, comme c'était au moment de la découverte. Enfin, la disparition.
C'est début juillet.
Le corps serait décomposé très, très vite.
Décomposition rapide. Mais on peut avoir aussi un autre phénomène, d'autant plus s'il y a eu une blessure avec un épanchement sanguin important, donc perte énormément de liquide. Et avec la chaleur, c'est ce qu'on appelle une sorte de momification, c'est-à-dire dessiccation, ce qui fait que ça limite le dégagement d'odeur, qui est d'odeur de décomposition, qui aurait pu attirer si ça avait été à proximité. Et pour peu que l'enfant soit emmailloté dans quelque chose qui de plus ou moins hermétique, eh bien, on sentira rien, c'est caché. Et quand on parle d'un transport en véhicule, du corps ou autre, je vous garantis que pour le plus simple, pour transporter sans se faire remarquer, c'est un sac à dos de montagne. C'est un enfant.
Ouais.
Il a 2 ans. Mm-hmm. Il pèse 10 kilos tout mouillé. Et à partir de ce moment-là, et après, quand on n'a plus qu'un squelette ou un corps squelettisé, ben ça pèse rien, ça ne tient pas de place.
Est-ce qu'il est possible que le corps de l'enfant ait pu être conservé au sein du hameau du Auvernais, parce que je parlais justement de ces investigations, de ces fouilles. Il oui. On expliquait que même les congélateurs, même les gendarmes avaient ouvert les congélateurs dans les maisons en se disant peut-être qu'il a pu s'enfermer dedans par inadvertance.
Oui, il y a deux semaines, il y a eu la fouille de l'église Saint-Martin. Cette église, il n'y a que la famille du petit Émile qui la fréquente. Ils l'ont par ailleurs fréquenté quelques heures après la disparition de leur enfant. Seules deux personnes ont les clés de cette église. Nous, on a pu y rentrer la semaine dernière avec Célia Vallée pour la toute première fois. C'est une église assez particulière. Très peu d'objets, à peine 30-40 places. Les murs sont blancs, pas beaucoup d'icônes au mur. Et puis il y a une petite pancarte à l'effigie d'Émile avec sur un fond bleu son prénom qui est inscrit sur un petit napperon blanc. C'est une église pas comme une autre. Donc on sait que si les enquêteurs sont allés fouiller cette église, c'est parce qu'ils ont reçu un faisceau d'éléments. On en parlait avec le général il y a quelques jours. On ne sait pas si c'est une lettre anonyme, si ça sort d'une écoute téléphonique, si c'est une déclaration lors d'une audition qui a permis que les enquêteurs s'y intéressent. La jardinière, bon, aujourd'hui on sait enfin qu'il n'y a aucun élément probant qui ressort de cette fameuse jardinière qui a été saisie par les enquêteurs. Mais voilà, cette église a été l'attention des enquêteurs pendant quelques heures. Et elle a la particularité surtout de n'être fréquentée que par la famille. Alors oui, ça ne veut rien dire aujourd'hui, mais ça peut, voilà. Oui.
Je rappelle aussi que parmi les investigations, il y a eu celle une nuit du cimetière.
Oui, qui est passée à l'église.
Tombe par tombe pour voir s'il n'y avait pas, si le corps de l'enfant n'avait pas été mis dans un caveau et ont été vérifiés tous les joints pour voir s'ils étaient frais, pas frais ou s'il en manquait, de façon à s'assurer. Donc il y a eu énormément de fouilles. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Il y a des maisons, des vieilles maisons, des anciennes maisons qui peuvent avoir aussi des caches naturelles. Je parle par des caches naturelles, c'est historique, pour lesquelles qui n'ont pas été trouvées, tout simplement.
Quand je reprends les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par le procureur Alexandra, 50 perquisitions judiciaires, 27 véhicules qui ont été fouillés, analysés et 285 hectares qui ont été ratissés. Et les chiens, parce qu'il y a le rôle des chiens aussi, des gendarmes qui sont intervenus. Ils sont intervenus rapidement, ces chiens. C'est possible qu'un corps ait pu leur échapper
Ça paraît difficilement plausible lorsqu'on parle avec des experts canins qui notent quand même que, et on le disait tout à l'heure, qu'on était en juillet au moment où le petit Émile disparaît, il faisait très chaud. Ça peut parfois altérer l'odorat des chiens pisteurs. Pour autant, ils suivent la trace du petit Émile jusqu'à ce fameux lavoir qui se trouve au cœur du village et la trace s'arrête brusquement à cet endroit-là. Et ça, pour le coup, sans une intervention d'un tiers, ça paraît difficilement plausible, explicable, qu'il n'y ait pas derrière d'autres traces du petit garçon, si tant est qu'il ait poursuivi son chemin après ce lavoir. Est-ce que ça veut dire que c'est à cet endroit-là qu'il a été emmené ailleurs? Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il a été tué? Pour le moment, ces questions restent en suspens. Une seule certitude, quelqu'un sait quelque chose au Auvernais. Et pour l'instant, cette personne n'a pas encore parlé.
C'est ça la difficulté aussi, c'est qu'on on est dans un espèce de microcosme. Et là aussi, c'est une des difficultés pour les enquêteurs. Le Auvernais, on y va justement, où l'on vous retrouve, Pauline Sarafi. Comment on a accueilli ces nouvelles révélations? La certitude donc qu'il y a eu une intervention humaine et l'enquête de fait qui va se resserrer de nouveau sur ce hameau?
Écoutez, un sentiment partagé ici au Auvernais, hein, après les différentes annonces aujourd'hui, effectivement de la déception, de la sidération, mais parfois aussi du soulagement. La déception d'abord parce que les habitants espéraient que le procureur allait apporter de nouveaux éléments pour espérer lever un peu le mystère sur ce qui s'est passé le 8 juillet 2023, le jour de la disparition d'Émile Soleil, mais du soulagement également, notamment ce matin, lorsque l'on a vu les quatre membres de la famille sortir de garde à vue sans poursuite judiciaire. Beaucoup ici espèrent que la piste du drame familial soit écartée. Cela fait 20 mois maintenant que le village vit au rythme de cette de cette affaire que chaque nouveau petit rebondissement eh bien, vient briser un peu le calme, la sérénitude eh bien, qui pesait avant au Vernet. Hier encore, des véhicules, beaucoup pardon, ici nous parlent maintenant d'un sentiment de lassitude. Ils sont lassés de voir des journalistes. Hier encore, des véhicules de la gendarmerie circulaient dans le village, prévenus par des habitants qui leur demandaient eh bien, de chasser les journalistes. Ces habitants, eux, qui n'ont pas de réponse et qui, comme tout le monde, eh bien, espèrent que le mystère sera bientôt levé sur cette affaire.
Merci Pauline Sarafi avec Julie Roser. Valentin, vous nous avez rejoint. Valentin Doyen, vous suivez l'affaire Émile depuis le début, affaire que vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien les lieux, l'environnement et ce soir, Pauline nous racontait un peu ce climat au sein de ce hameau avec cette révélation, la certitude que quelqu'un est intervenu. Est-ce que ça va réveiller le climat de suspicion au sein de ce hameau?
Ah, je pense que c'est un tournant aussi pour beaucoup d'habitants du Vernet et du Haut-Vernet qui pensaient probablement, comme nous, avoir des réponses immédiates à l'issue des gardes à vue et beaucoup s'imaginaient pouvoir discuter avec eux qu'il allait avoir une mise en examen du grand-père d'Émile. Elle n'est pas arrivée. Et après, cette conférence de presse avec la certitude qu'un petit garçon a été tué et déplacé dans leur propre commune, où certains sont installés depuis plusieurs générations. Donc forcément, ça va être difficile. Ça va être difficile, ça l'est déjà. J'ai pu échanger brièvement avec le maire François Balic, qui me disait « Ah franchement, on n'avait pas besoin de ça, il faut qu'il trouve pour le village ». Et son mot, ça a été « pour le village », pour la sérénité des habitants, pour que les gens évitent de se regarder en chien de faïence et pour qu'ils puissent avancer. Parce que vous ne voyez pas l'image du Vernet. Il y a quelques jours, on a célébré les 10 ans du crash de la 320. C'était sur la commune du Vernet de Prasso-de-Bléone. Il y a cette affaire Émile. Non, on est là sur un petit village qui est meurtri et qui pense ses plaies et qui a besoin également d'explications, quoi.
Et qui va encore être au cœur de cette enquête. Il va y avoir une pression sur ce village parce qu'il va falloir déterminer ce lieu, ce fameux point zéro, là où a été tué Émile et là où a été conservé le corps pendant ces longs mois.
Oui, ce sont des investigations qui ne s'arrêtent pas maintenant que ces gardes à vue sont terminées. Elles se poursuivent parce qu'on a senti depuis le début de ce dossier, chez les enquêteurs, chez les juges d'instruction, chez le procureur qui initialement avait, les premiers jours de ce dossier, qu'il y a une détermination à mener une réponse sur les circonstances de la mort de ce petit garçon, mais également sur la personne qui a pu se trouver derrière. Parce qu'aujourd'hui, désormais, on le disait, on a la certitude qu'il y a eu, les enquêteurs ont la certitude qu'il y a eu l'intervention d'une personne dans le décès du petit Émile. Est-ce que c'est une intervention, un homicide involontaire, un accident? Est-ce qu'il s'agit d'un homicide volontaire? Pour le moment, l'enquête est ouverte pour homicide volontaire. Les pistes sont explorées. Mais maintenant, il ne fait plus de doute pour les enquêteurs de ce qu'on a pu comprendre de cette conférence de presse, que le petit Émile ne s'est pas échappé seul, n'est pas décédé seul parce qu'il avait eu, par exemple, parce qu'il avait échappé à la vigilance et qu'il s'est retrouvé isolé dans la montagne et qu'il n'a pas pu appeler à l'aide ou trouver quelqu'un pour l'aider. Il y a eu quelqu'un qui a su pourquoi il était mort, qui a joué un rôle dans sa mort et qui a joué un rôle dans le fait que ses ossements ont été retrouvés à cet endroit-là précis, le 28 mars 2024. Ce n'est pas un hasard, ils ont été déposés là par une main humaine.
Avec trois informations à retenir de cette conférence de presse, la piste familiale, malgré le fait que les grands-parents, l'oncle et la tante ont été relâchés sans charge, n'est pas refermée, malgré tout. Les ossements ont été déplacés peu de temps avant leur découverte en mars 2024. Et puis, il y a eu un choc. Il y a eu un choc autour de ce crâne, général Daoust. Le procureur parle de traumatisme facial violent. Est-ce que ça signifie que c'est ça qui a causé la mort du petit garçon?
Alors, même un médecin légiste serait prudent pour dire c'est pas forcément ça qui a entraîné la mort. Mais on peut imaginer, en fonction des fractures qui ont été décelées, vues, observées, que derrière ce choc violent a entraîné ce qu'on appelle un fracas, c'est-à-dire un effondrement des os de la face, et que derrière l'enfant est très certainement mort de ce choc.
Et comment on fait la différence entre un coup ou un coup volontaire ou un choc là, qui pourrait être lié à un accident.
Là, c'est,
ou
beaucoup, chute, c'est, ou autre. C'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'on n'a pas le corps dans son entièreté et qu'on n'a qu'une partie du crâne. Donc, à ce stade, on ne peut pas déterminer, ou en tout cas, on ne nous a pas donné les éléments qui auraient pu dire si c'était déterminable, si c'est un coup avec un objet contondant ou équivalent, que ce soit un coup avec un pare-choc, par exemple, ou si c'est une chute. Chute d'un arbre, chute d'un rocher, alors qu'on joue avec d'autres personnes, etc. Donc là-dessus, on sait que c'est un choc violent, mais on n'a pas déterminé lequel.
Mais les deux hypothèses sont possibles.
Tout à
fait. À cette heure, accidentelle ou volontaire.
Oui, oui, oui.
Alors ça interroge quand même, parce que j'aimerais qu'on réécoute le procureur en mars 2024, au moment où effectivement les ossements ont été découverts sur ce chemin forestier. Et voilà ce qu'il disait à l'époque.
Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux.
Il le dit à l'époque, il n'y a aucun traumatisme ante-mortem qui a été observé. Pourquoi en quelques mois de temps, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un traumatisme facial violent ?
Parce que les expertises ont continué. Elles ne se sont pas arrêtées là.
Mais c'est possible que ça ait échappé aux premières expertises ?
Ah, c'est fort possible.
Non, on peut ne pas détecter un traumatisme facial violent, encore une fois.
On n'a qu'une partie du crâne.
On n'a qu'une partie du crâne.
Il y a une possibilité aussi qu'une autre partie du crâne soit retrouvée.
Exactement.
Après, il y a aussi la possibilité, ça ne va peut-être pas faire plaisir au général Daoust, c'est que l'IRCGN peut-être ne l'ait pas découvert dans un premier temps, et que l'appui du professeur Christian Doutremepuis et son laboratoire privé à Bordeaux a pu détecter autre chose.
C'est aussi parfaitement possible. Voilà. Ça aussi, c'est possible.
C'est possible.
Là-dessus, il y a cette possibilité. Toujours est-il que le procureur a dit qu'il y avait de très nombreuses, plus de 60 expertises qui ont été faites et qui se sont échelonnées dans le temps. Après, il y a peut-être aussi, s'il avait déterminé, la possibilité de le passer sous silence. Mais ça m'étonnerait à ce stade, ça m'étonnerait énormément. Ça
aurait été Christian Pêche.
Combien de temps après la découverte du corps, il y a eu la conférence de presse du procureur ?
C'était le 2 avril, donc on est... 4 jours.
4 jours après. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'expertise.
Voilà.
Il y a eu un examen de ce qui a été découvert, qui fait qu'on n'a pas pu déterminer la trace du fracas qu'il évoque maintenant, à l'issue d'expertises qui ont pris forcément plus de 4 jours.
Oui. Et comment on a pu déterminer justement ce traumatisme facial ?
Alors après, c'est par rapport au reste du crâne, les différents morceaux, c'est les brisures et ces segments de brisure, comme un morceau de verre qui est cassé, qui vont permettre de déterminer si c'est antémortem ou postmortem. Et là, à partir du nombre de ces brisures, eh bien le médecin légiste et l'anthropologue vont pouvoir dire c'est de l'antémortem. Et au vu de ces brisures, eh bien ça ne peut être qu'un fracas important.
On est quand même loin de la loupe de Sherlock Holmes. On a assisté à une révolution, j'ai l'impression, de gendarmes. Alors, la police a gagné le terme sémantique, puisqu'on dit toujours la police scientifique. Mais c'est la gendarmerie scientifique.
La police était pionnière. Ouais.
La gendarmerie scientifique, aujourd'hui, on assiste à une révolution, Perrine. Hein. Il nous l'a expliqué, le général Daoust, comment ils ont pu démasquer... parce que le fracas facial, tout ça, la petite Maëlys, ils ont fait des expertises sur le crâne, ils ont établi plein de choses. C'est moins nouveau. En revanche, enfin, je parle sous votre contrôle à vous, la façon dont ils ont démasqué la mise en scène criminelle, il y a quand même quelqu'un, indépendamment de la façon dont est mort le petit Émile, il y a quelqu'un qui, peu de temps avant le mois de mars, peu de temps avant le 20 mars, a décidé d'aller le déposer à cet endroit-là en forêt, où on l'a retrouvé, dans l'intention de tromper son monde. Et ça, il le démasque grâce... Le procureur, il a buté sur le mot, quand il a employé l'expression « la polynologie ». Et la palynologie, voilà.
Oui, on a appris pas mal de termes aujourd'hui.
Et là, je me suis dit, bah, tiens, la palynologie, ça a l'air d'être quelque chose d'important, puisqu'il a buté sur le mot. Et effectivement, le général nous l'explique, c'est une nouveauté. C'est la signature de l'espace. Puisque chaque coin d'espace...
Alors, c'est le biotope, la signature de l'espace. Oui. Et la palynologie est un des éléments du vivant.
L'étude des pollens.
Et ça, grâce à ça, on sait que le petit Émile, il a été déplacé 2 fois. Et que quelques jours avant, vous vous rendez compte, mais il y a un an ou deux, ou je ne sais pas combien de temps, personne n'aurait jamais établi une chose pareille.
Pour l'instant, on ne le voit jamais dans les dossiers criminels. Moi, j'en fais énormément.
Jamais.
J'ai découvert ça, comme vous.
Aujourd'hui
Évidemment, parce que...
Vous n'aviez jamais entendu ce terme de palynologie.
Et j'en suis à 150 procès criminels, je n'ai jamais entendu ce terme, jamais vu ce type d'expertise, jamais entendu parler du biotope, pardonnez-moi, mais c'est la réalité, et j'ai découvert, parce que moi j'ai le privilège d'avoir acheté le livre du général Daoust, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu des parties, j'ai découvert ça, et c'est vrai que c'est une révolution. Et c'est très récent, alors je pense que c'est très technique, très méticuleux, je ne sais pas ce que ça coûte, parce que tous ces travaux-là ont un coût, ils sont chiffrés, ça compte hein, dans un dossier. Hein. Tout ce que vous voyez qui se fait est chiffré à un budget. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, particulièrement prometteur.
Justement, est-ce que, général, il y a une marge d'erreur, vu que c'est nouveau ?
Alors, non. Parce que la palynologie, elle est connue depuis plus de 50 ans. Okay. L'étude des pollens, ça fait l'objet de la botanique et des études en la matière dans les cercles universitaires et de recherche là-dessus, tout autour des plantes. En revanche, c'est l'adaptation de cette palynologie à des fins criminalistiques ou forensiques. C'est-à-dire, je retrouve sur une victime du pollen, il n'a pas de plantes autour de lui. Et parmi les suspects, j'en ai un qui a une plante qui produit le même type de pollen. Et comme les plantes sont comme nous, elles ont un ADN, eh bien, on peut aller jusqu'à faire l'analyse ADN de la plante, de son pollen et de tout pour faire des rapprochements.
Donc là, pour les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont pas écouté ce que vous nous, qui n'ont pas entendu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, on a retrouvé sur ces ossements deux biotopes, qui correspondent en fait à deux environnements. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer que les ossements ont été déplacés.
Oui. Alors, les biotopes, pour expliquer simplement, c'est tout un monde de vivants qui se situe dans un endroit particulier. Alors, un endroit particulier, ça peut être...
Quand vous dites monde de vivants, c'est quoi ? C'est des insectes,
Des insectes microscopiques, des pollens, tout ce qui a trait... Ça peut même aller, alors, à la frontière du vivant, diraient certains, des virus, des bactéries, mais essentiellement des bactéries qui sont caractéristiques d'un milieu. On a des moisissures, on a des champignons, on a tout ça qui caractérise un endroit.
La signature de la pièce.
La signature d'une pièce, parce qu'on peut retrouver des moisissures ici, on peut retrouver des acariens, on peut retrouver des bactéries qui, au bout d'un moment, vont faire leur propre vie. Nous restons là, nous partons, nous perdons des milliers de cellules épithéliales. Tout le monde s'en nourrit, tout ce petit monde. C'est pour ça que les tables sont si propres. Et nous, on ne les voit pas. Donc, dans la nature, on a la même chose. Et avec, en plus, des plantes qui sont florissantes, qui sont tout autour, qui sont une signature du coin où il y a. On parle de coin champignon, comme on peut parler de coin à orties, etc., de ronces ou autres. Et on voit bien que derrière, il y a tout un ensemble animal, végétal et microscopique qui existe. Eh bien, chaque endroit a, comme ça, son petit monde à lui. Oui. Et quand on retrouve sur les vêtements un ensemble d'un petit monde qui n'est pas de celui du lieu où on a découvert le corps et les vêtements, oui, ça veut bien dire que pendant un temps assez long, il a été déposé ailleurs, il s'est nourri, si je peux puis dire ainsi, en tout cas, s'est déposé sur lui le biotope dans lequel il a été déposé, parce que ça vit, oui, ça bouge, et, etc. Et quand il a été déplacé, eh bien, on a emporté avec ses habits et le reste de son corps tout le biotope dans lequel il était. Et quand on le retrouve sur place, eh bien, on n'a pas toute la faune et la flore locale là, du lieu de la découverte, mais on a un autre biotope d'importance. Ça veut dire qu'il était bien ailleurs et qu'il a été déplacé.
Et précision importante, vous nous le disiez tout à l'heure, à l'intérieur aussi, on a un biotope. Donc on peut déterminer aussi si le corps a été conservé en intérieur ou en extérieur.
Si c'est un biotope d'intérieur ou si c'est un biotope d'extérieur. On n'a pas forcément les mêmes moisissures et, à l'intérieur. On n'a pas le même univers, les mêmes acariens, les mêmes éléments qui sont dans une pièce et ce que l'on peut retrouver à l'extérieur.
Et ce biotope, on peut le retrouver aussi bien par les analyses sur des textiles que sur des ossements ?
Oui,
ça fonctionne surtout.
Oui, parce que c'est une observation microscopique de ce qu'il y a, de ce qui est présent. Et on peut
et
même le passer.
Ça s'accroche donc aussi bien.
Ça s'accroche partout. On peut le voir avec des microscopes optiques puissants. Et quand on rentre sur vraiment quelque chose de très microscopique, il y a à l'IRCGN plusieurs microscopes électroniques à balayage qui vont aller encore plus loin pour aller chercher des particules ultra petites qui existent et qu'on pourra retrouver par différents endroits.
Une soixantaine de missions d'expertise qui ont été menées sur ces ossements et sur ces vêtements pour pouvoir en arriver à ces conclusions. Le fait que les ossements ont été déplacés et qu'il y a bien eu l'intervention d'un tiers et des traces d'un traumatisme facial violent sur le crâne du petit Émile sont les principales informations à retenir ce soir, les dernières informations. La piste familiale, elle, n'est pas complètement refermée, même si les grands-parents, l'oncle et la tante ont été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Ils se trouvent au domicile familial de la Bouilladise, dans les Bouches-du-Rhône, où vous vous trouvez, Pierre Barbin. La famille qui fait bloc, qui reste uni aujourd'hui, puisque les parents se sont rendus chez les grands-parents.
Oui, en début de matinée, ils sont arrivés, c'est une arrivée marquante, ils sont arrivés peu après 8 heures du matin en voiture accompagnés de leur bébé de quelques mois. On sait qu'un peu plus tôt dans la matinée, voire même dans la nuit, les grands-parents, à l'issue de leur garde à vue, avaient retrouvé leur domicile de la Bouilladise. On sait aussi qu'ils sont sortis d'une manière mystérieuse pour nous, sans savoir réellement comment, puisqu'ils sont revenus devant chez eux à 19h30 avec une autre voiture où nous avons pu voir donc Anne et Philippe Vedovini rentrer définitivement cette fois chez eux. On sait malgré tout qu'ils ont passé une partie de la journée dans cette maison puisqu'il y a une photo où on voit Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, donc entouré de ses enfants dans le jardin de la maison familiale avec donc les enfants et le chien. On le voit sur cette photo. C'est un moment de répit après cette épreuve qu'ont traversé les quatre personnes en garde à vue. Ça montre aussi que la famille reste soudée après ce qu'il s'est passé. C'est toujours le cas quand elle traverse des épreuves comme celle-ci depuis le début de l'affaire. Je disais une épreuve parce que ça a été vraiment un moment harassant, épuisant pour ces quatre personnes, les grands-parents, l'oncle et la tante du petit Émile, avec donc ces deux jours de garde à vue dans les conditions qu'on imagine, avec des auditions qui ont lieu parfois la nuit. Il y a donc de l'épuisement, c'est ce qu'on nous ont dit d'ailleurs les avocats, mais il y a aussi surtout du soulagement de ressortir libre sans aucune poursuite judiciaire. Il y a désormais donc ce moment de repos et on préfère digérer ensemble donc cette famille unie, et il y a une volonté désormais commune de savoir enfin la vérité, de savoir réellement comment est mort le petit Émile.
Merci beaucoup Pierre Barbin. Avec Camille Martin, cette famille Valentin qui se montre unie, et pourtant les parents on imagine à quel point ça a dû être éprouvant ces dernières 48 heures de voir les grands-parents en garde à vue, l'oncle et la tante, de s'imaginer le pire des scénarios. Pierre nous disait il y a une forme de soulagement, un soulagement aujourd'hui chez cette famille qui fait bloc, et on le voit à travers cette photo, cette famille qui reste unie.
La famille qui fait bloc, on pense également à Marie, la maman d'Émile, parce qu'elle avait ses parents qui étaient en garde à vue, frères et sœurs en garde à vue, et ses petits frères également, et petites sœurs, qui étaient seuls ou accompagnés durant cette épreuve. Et oui, je pense que c'est une famille qui passe par toutes les émotions. La difficulté d'être en garde à vue, de ne pas savoir, des doutes également qui s'installent. Quand ils rentrent chez eux, il y a des journalistes qui sont présents, qui font leur métier, mais pour eux, c'est aussi difficile à accepter d'être au cœur comme ça de la machine médiatique et d'avoir encore des journalistes qui sont devant leur portail. Et ça a été difficile pour Colomban et Marie, ils l'ont fait savoir lorsqu'ils sont arrivés. Les grands-parents également d'Émile l'ont fait savoir à plusieurs reprises. Et oui, là, sur cette photo, qui c'est une photo de nos confrères de la Provence, on sent que Philippe Vedovini a aussi besoin de... très certainement de se ressourcer, de retrouver ses enfants qui n'étaient pas concernés par la garde à vue. Il sait aussi certainement, puisque c'est quelqu'un d'intelligent, il sait que les journalistes ne sont pas très loin. Donc il a conscience aussi que cette photo peut être prise à un instant donné.
Avec d'ailleurs des prises de parole aujourd'hui des avocats et de la grand-mère et du grand-père, avocat du grand-père qui disait dans Le Point aujourd'hui, ça va être compliqué, ça va être très compliqué de reprendre une vie courante. On rappelle qu'il est kiné et donc il a aussi des clients, il a aussi une notoriété au sein de la Bouyadise. Donc elle expliquait que ça allait être extrêmement compliqué et que ses gardes à vue vont potentiellement laisser des traces. Même son de cloche du côté de l'avocat de la grand-mère, écoutez.
Pour une grand-mère qui a perdu son petit-fils dans des circonstances aussi dramatiques, être entendue à ce sujet dans le cadre d'une garde à vue est une épreuve particulièrement lourde. Ma cliente l'a vécu comme un passage peut-être nécessaire dans le cadre de ses investigations dont elle attend tant de réponses. Elle se repose désormais, ce furent 48 heures effectivement tendues et éprouvantes.
Alors c'est vrai que c'est toujours éprouvant, une garde à vue, mais là encore une fois on est sur des accusations extrêmement sensibles, on touche au cercle familial, ça peut être dévastateur.
C'est dévastateur, et même chez des gens très équilibrés, bien construits, même une famille très soudée, c'est extrêmement dévastateur. Vous vous rendez compte que ces gens enterraient le petit Émile il y a quelque temps de cela, et puis qu'ils se retrouvent pointés du doigt, accusés... au vu de tout le monde, mise en cause 48 heures dans des conditions très difficiles, qui sont les conditions de la garde à vue. C'est très violent pour cette famille qui a été prise au lever du lit à 6 heures du matin. Et je pense qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est ce qu'on appelle la violence légitime de la justice. Hein. On appelle ça comme ça parce que ça fait partie de l'exécution de la loi. Ça fait partie de la façon de mener une enquête. Mais pour des justiciables qui sont déjà dans la peine et dans la souffrance, c'est une épreuve supplémentaire. Et ça va aller. Vous avez dit le mot, l'expression. Vous avez dit ça va laisser des traces. Oui, je crois que c'est vraiment l'expression, ça va laisser des traces psychologiques profondes.
Et vous me disiez, Valentin, le grand-père n'accepte plus de nouveaux patients. J'expliquais qu'il était kiné, il n'accepte plus de nouveaux patients.
Il a fait un tri drastique, puisque c'est quelqu'un qui est implanté depuis de nombreuses années à la Bouyadis. C'est une famille historique de cette commune des Bouches-du-Rhône. La maman de Philippe Védovigny a été la maîtresse de l'école primaire. Et en gros, tous les vieux de la vieille de la Bouyadis ont eu Madame Védovigny comme institutrice. Et donc, lui, il est installé depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il avait une grosse clientèle qui venait d'un peu partout des Bouches-du-Rhône parce qu'il avait plutôt bonne presse. Et depuis l'affaire Émile, il y a plein de nouvelles personnes qui ont voulu aller le rencontrer, mais aussi lui poser des questions, une sorte de curiosité malsaine. Mmh. Et de ce que j'ai cru comprendre de gens qui le connaissent bien, il en a mis une paire dehors parce qu'il ne supportait pas de devoir évoquer cette affaire. Quoi.
Même si aucune charge n'a été retenue contre eux, on ne peut rien faire contre le poids du soupçon, Laurent.
Mais oui, surtout que il y a quand même trois séquences différentes décrites par le procureur et puis qui concernent potentiellement toutes les 17 personnes qui étaient au Vernet ce jour-là. Il y a la fameuse ce qui s'est passé dans l'heure de la disparition d'Émile, avec l'hypothèse du fracas facial dont parlait le procureur, donc un choc volontaire ou involontaire. On sait, parce que le procureur l'a aussi précisé, que le t-shirt a été conservé à un autre endroit que la conservation du corps, puisqu'il y a quelqu'un qui a apparemment conservé le corps du petit Émile, et puis dans un troisième temps, il y a quelqu'un qui a déposé ce qui restait du corps du petit Émile avec son t-shirt qu'il avait prélevé à côté, hein, c'est ça mon général. Mm-hmm. Ça aussi, ça fait partie de des expertises scientifiques, puisque le procureur a expliqué que le corps n'avait pas été décomposé dans le t-shirt, prenez-vous compte, Périne.
Comment on le sait,
alors,
d'ailleurs?
On le sait tout simplement. Un t-shirt, un vêtement, c'est des fibres, soit des fibres synthétiques, soit des fibres animales, soit des fibres végétales. Animal, c'est la laine, par exemple. Végétal, c'est le lin, le coton, etc. Et synthétique, c'est tout simplement du nylon, un polymère issu du pétrole qui est travaillé différemment. Et lorsque un corps se décompose dans des vêtements, la décomposition du corps et tous les fluides passent à travers tous ces fibres et laissent des éléments résiduels. Ces éléments résiduels, eh bien, on pourra les retrouver, même si au bout d'un moment, tout ce qui est liquide s'évapore, et il reste quand même des éléments solides, et notamment l'acidité et les gaz méphitiques, butyriques, qui sont les termes médicaux de cette décomposition, viennent complètement changer la teinture ou transformer la teinture des vêtements. Donc entre les résidus et la teinture, on sait tout de suite si le vêtement était porté ou pas. Là, il n'y a rien. Le procureur nous a dit il n'y a rien.
C'est une mise en scène.
Justement, quelles sont les hypothèses possibles? Quelles sont les pistes d'explication possibles?
Soit le t-shirt et le petit garçon n'avait pas de t-shirt, c'est-à-dire il l'a enlevé, il fait chaud, c'est l'été, on joue à un moment.
Mais il l'a fait au moment de sa disparition.
Alors, oui. Il l'a au moment de sa disparition, mais ça c'est le témoignage. Quand il part et il l'a, après on ne sait pas ce qui se passe.
Oui.
Il va jouer, il ne va pas jouer, il enlève le t-shirt pour une raison ou pour une autre, et arrive l'accident ou l'agression. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le t-shirt.
Donc soit il le retire lui-même.
Voilà. Soit on le lui a retiré. Est-ce que c'est avant ou après l'accident ou le coup?
Mais ce qui est frappant, c'est de se dire
que ça a été gardé.
Exactement. Que la personne qui est à l'origine du décès du petit Émile a conservé non seulement ce corps dans un endroit à l'abri des regards, à l'abri du fait que les odeurs auraient pu être perçues par les chiens, la battue qui a été menée, etc. Le corps, mais aussi le vêtement, et séparément. Ce qui interroge quand même.
Il y a beaucoup de questions et effectivement les enquêtes, enfin les investigations vont se poursuivre et on comprend à quel point elles vont encore être tentaculaires et c'est encore une montagne qui attend les enquêteurs. On va revenir dans un instant sur les expertises avec vous et avec Raphaël Grabli, toutes les expertises qui ont été menées. Mais j'aimerais qu'on écoute à nouveau le procureur qui explique pourquoi les grands-parents, l'oncle et la tante ont été placés en garde à vue.
Cette hypothèse-là en était une parmi d'autres. Le temps était venu de purger cette hypothèse. Alors pourquoi la piste intrafamiliale? Parce que, vous le savez comme moi, les membres de la famille étaient présents au moment de la disparition de l'enfant. Donc on réagit au moment de cette disparition. Et il était nécessaire de comprendre à la fois cette réaction, à la lumière aussi de l'ensemble des liens et des relations qui unissent les membres de cette famille.
Christian Flèche, il fallait purger cette hypothèse, c'est ce que dit le procureur, cette hypothèse familiale. C'est logique de les interroger sur tous les éléments recueillis, vu qu'ils étaient présents le jour de la disparition?
Vu qu'ils étaient présents et vu que, compte tenu des éléments d'expertise qu'il avait, on voit que le corps a été amené à proximité et que donc c'est dans un environnement très proche du lieu de découverte, qui est à 2 km, que se trouve la personne qui a sans doute participé à la mise en scène qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le transport du corps, l'habillage peut-être avec un vêtement. Donc les parents, on a vu qu'ils avaient un profil qui dans la presse a été... Enfin, les grands-parents dans la presse a beaucoup parlé du profil. Donc je pense même que le grand-père et la grand-mère avaient l'idée qu'un jour, les gendarmes viendraient chez eux. Et que peut-être pour eux, c'est peut-être aussi une forme de soulagement d'avoir pu s'expliquer.
Ils ont pu s'expliquer. Voilà. Mais justement, parce qu'en fait, de ce qu'on comprend, ce que dit le procureur, c'est qu'il n'y avait pas d'éléments incriminants, les grands-parents, l'oncle ou la tante, et que c'est encore une fois, au vu de l'avancée et des conclusions de ces expertises qu'ils ont voulu entendre, ceux qui avaient la charge du petit Émile ce jour-là, pourquoi ils ont été entendus sous le régime de la garde à vue?
Parce que je pense qu'il y avait des éléments sur lesquels il fallait les interroger. Et que le régime de la garde à vue était un régime protecteur.
Ils étaient aussi soupçonnés. On ne place pas en garde à vue des gens pour les protéger ou parce qu'ils sont témoins. On les écoute en tant que témoins ou témoins assistés ou simples témoins. Mais quand on place en garde à vue, c'est parce qu'on a des soupçons. Sinon, la loi ne permet pas de placer en garde à vue des gens qui ne sont pas soupçonnés. Dans une démocratie, bien évidemment qu'un citoyen qui n'est pas soupçonné ne peut pas se voir entravé dans sa liberté. Mais soupçonné, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être soupçonné pour pas grand-chose. On peut être soupçonné sur une simple dénonciation, une lettre anonyme, par exemple, permet de vous soupçonner, permet de placer en garde à vue. Après, vous avez raison, on vérifie, les droits de la défense s'exercent, et puis on en tire les conséquences, et là on en a tiré les conséquences.
Un éclairage quand même, Valentin, parce que le procureur dit vouloir comprendre leur réaction à la lumière de l'ensemble des liens et des relations qui unissent cette famille. Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
Il faut comprendre que les liens qui unissent cette famille et leur peut-être rapport à la foi, leur rapport à l'éducation, a suscité la curiosité et l'intérêt des enquêteurs. Et les enquêteurs voulaient en avoir le cœur net. Est-ce que la situation et le fonctionnement de la famille Vedovini-Soleil peut avoir une explication avec la disparition et la mort du petit garçon? Je pense que c'est ça. Ils se sont aussi basés sur énormément de témoignages, dans le voisinage. Le nombre de personnes qui ont été entendues, c'est assez impressionnant. Donc les enquêteurs, ils vérifient, ils lisent, ils écoutent, ils entendent, ils écoutent téléphoniques, etc. Il y a peut-être des choses, des éléments qu'ils souhaitaient approfondir.
On va s'arrêter sur ces investigations qui ont mené à ces conclusions, le travail minutieux des enquêteurs et les moyens mobilisés. C'est l'œil de Raphaël. Et depuis maintenant 20 mois, Raphaël, c'est un ensemble impressionnant d'outils qui ont été déployés pour tenter de percer le mystère.
Oui, Périne, ces techniques d'enquête scientifique sur lesquelles on revient avec vous, Général Daoust, et notamment ce matin, avec donc ces premières réponses par le procureur, notamment sur l'intervention d'un tiers dans la disparition de l'enfant. Il y a évidemment le traumatisme facial dont on a parlé, mais surtout, et vous en parliez aussi il y a quelques minutes, le déplacement des ossements du petit Émile avant leur découverte, il y a un an, par une randonneuse. Comment est-ce qu'on enquête là-dessus? Comment est-ce que l'expertise scientifique permet de savoir que ces ossements ont été déplacés? On parle notamment d'expertise entomologique.
Alors, l'entomologie, c'est tout ce qui a trait aux insectes. Et les insectes, en matière de crime, c'est tout ce qui peut permettre de déterminer une datation de la mort là où le médecin légiste n'a plus de capacité de le faire. C'est-à-dire, c'est, on est sur un temps long, on retrouve un corps, et depuis combien de temps il est là? Est-ce qu'il est, il a été tué à cet endroit ou au contraire, il a été déplacé? Pour ça, il y a dans la nature ce que l'on appelle les insectes nécrophages. Quand le premier jour où une personne décède, il y a des insectes, une première escouade qui vient, qui se nourrit, qui se multiplie, qui s'accouple.
C'est le fameux biotope dont vous parliez tout
alors,
à l'heure.
Alors, ça en fait partie. Alors, plus ou moins, parce que là, ce sont des, ils viennent de beaucoup plus loin. Il faut savoir que la première escouade a parfois ces fameuses molécules de décomposition, une sensibilité qui peut aller jusqu'à 20 km. D'accord. Donc, ils viennent, ils se nourrissent, ils se reproduisent et ils s'en vont. 5-6 jours après, il y a une deuxième escouade qui vient à un moment où la décomposition du corps est plus avancée. Ils font la même chose et ça continue comme ça. Il y a environ 9 escouades. Et quand on arrive et qu'on trouve un corps squelettisé, on va prendre toute la terre autour, tout ce qui est autour, et on va prendre avec les restes des œufs, des pupes, des quelques insectes qui sont morts aussi, et on regarde quelle est la dernière génération qui est arrivée, et ça permet de dire, nous sommes à la 5e escouade, eh bien ça veut dire que lorsqu'on remonte dans le temps, c'est à peu près 6 mois et un jour et deux jours et trois jours.
Ce qui permet de savoir s'il a été déplacé éventuellement ou pas.
Exactement. Et si on ne trouve pas, si on ne trouve qu'une des escouades ultérieures et pas les antérieures, celle du premier jour par exemple, de la première semaine ou autre, eh bien on sait que le corps n'a pas été tué là. Et qu'il n'a été que déposé. C'est comme ça qu'on sait qu'il a été déplacé.
Et ensuite, retrouvé à cet endroit. Une autre information essentielle apprise ce matin, ça concerne évidemment les vêtements de l'enfant qui ne se seraient donc pas décomposés. Ce qui laisse penser, vous le disiez à l'instant, qu'ils auraient été retirés. Alors, vous parlez de l'analyse de ces vêtements, mais concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on analyse ces fibres de tissu?
Alors, tout face, d'une manière très simple, c'est l'analyse microscopique. La typologie des fibres qui existent est répertoriée dans toutes les bibliographies et bibliothèques scientifiques. On sait parfaitement distinguer du coton, du sisal et du lin, comme de la laine. Et on arrive à déterminer même si c'est du lin, du coton égyptien, américain, etc. Donc là-dessus, on le voit. Et si ce sont des fibres synthétiques, on arrive à déterminer la nature de la fibre par son torsage et sa composition chimique.
Et c'est donc comme ça qu'on peut juger le niveau de décomposition
voilà
d'un tissu et de le mettre en rapport avec la décomposition exactement des ossements ou du corps qui a été retrouvé. Troisième élément intéressant, c'est notamment cette jardinière dont on a parlé il y a quelques jours, qui a été saisie par la police, qui se trouvait d'ailleurs proche de l'église fréquentée par les grands-parents d'Émile. Jardinière sur laquelle on a retrouvé des traces de sang. Et alors là, il y a un outil qui est extrêmement utilisé pour détecter d'éventuelles traces de sang, même s'il y a eu un nettoyage.
Tout à fait. Alors, c'est le Blue Star. Donc, c'était anciennement le luminol, mais qui avait un gros défaut, c'est qu'on voyait bien comme là une luminescence.
C'est quoi à l'écran?
Une luminescence.
C'est un spray. C'est un produit qu'on met par spray.
Et la différence, le Blue Star, on peut faire des prélèvements derrière pour voir si c'est de l'ADN humain ou pas. Et en l'espèce, d'après ce que disait le procureur de la République, les traces qui avaient été retrouvées ne sont pas des traces de sang, parce qu'il y a aussi des faux positifs, mais c'est déterminant. Et ce que l'on ne sait pas, ou qui a été très peu dit dans la presse, c'est que le Blue Star a été utilisé déjà plusieurs fois.
Oui, dans d'autres affaires très connues.
Mais y compris dans cette affaire-là, sur des parties de route, pour essayer de revoir s'il y avait eu un accrochage entre l'enfant et un véhicule et qu'on retrouve des traces de sang qui auraient été non visibles à l'œil nu.
Dernière question, je voulais revenir sur un chiffre qui a été évoqué ce matin par le procureur, un chiffre impressionnant, 55 millions données de communication. Ça correspond à quoi, cette nuée de données de communication qui ont été analysées dans l'affaire?
Voilà, alors elles sont en cours d'analyse.
En cours d'analyse.
C'est notre nouvel environnement. Maintenant, dans une scène de crime, quelle qu'elle soit, il y a plus de traces numériques que de traces classiques. Nous sommes entourés du numérique, de nos téléphones portables, tout ce qu'il peut y avoir est fait de numérique. En l'espèce, ce sont tous les bornages qu'il y a pu y avoir dans l'environnement de ce village. Il y a plusieurs bornes et on les prend toutes parce qu'elles peuvent s'échanger les unes les autres. Quand il y en a une qui est saturée, elle renvoie à une autre borne. Donc on sait qu'il y a...
C'est comme ça qu'on détecte toute personne qui pouvait être à proximité du lieu à un moment donné.
En fait, on détecte toute carte SIM qui a borné avec une des bornes. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est au plus près. C'est le problème du bornage, ça donne un environnement global. Il faut aller plus loin. C'est pour ça que toutes ces données doivent être utilisées et analysées. Elles sont reçues de manière brute après une réquisition auprès des opérateurs. Les experts du numérique les classent. Il faut faire déterminer le jour, l'heure, et la borne.
Donc on cherche une aiguille dans une botte de foin.
On cherche une aiguille dans une botte de foin. Et quand on a ça, c'est identifier la carte SIM, la personne qui possède ce téléphone ou le véhicule, parce qu'ils ont des cartes SIM GPS.
Et ça peut après, mener ensuite...
les amener à la personne. Et ce n'est que dans le téléphone ou dans le véhicule qu'on arrivera à faire la géolocalisation.
D'où les perquisitions.
Et le fait qu'on prenne chaque fois les téléphones, parce que là, c'est ce qui va permettre de retracer tout ce qu'a pu faire une personne sur 6 mois, 1 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant.
Merci Général Daoust.
Merci Raphaël, merci Général Daoust. Christian Flech, malgré tout ça, malgré tous ces outils, malgré toutes ces investigations, on n'a toujours pas la clé du mystère. Est-ce qu'on a tous les ingrédients pour se diriger vers un cold case?
Non, pas encore. Je pense qu'au contraire, grâce à tout ça, on a des multitudes de pistes qui peuvent s'ouvrir. Le général a évoqué les stockages de données numériques. C'est des choses qu'on peut exploiter plus tard. Le procureur a expliqué qu'on avait a priori la certitude que le corps a été déposé peu de temps après sa découverte. Donc, prenons les données numériques peu de temps avant la découverte du corps et regardons qui a borné dans la zone, par exemple. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui a été saisi. Et donc, il y a encore beaucoup d'investigations avant d'en arriver à envisager un cold case.
Mais ça fait quand même 20 mois que les enquêteurs sont dessus, avec un travail de fourmi, travail minutieux, travail acharné. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de découragement quand on est enquêteur?
Pour certains, peut-être, bien sûr, mais c'est la force de l'équipe aussi, que quand il y en a un qui a un temps mort, et ben les autres sont là pour épauler. Et puis ensuite, de temps en temps, il y a des lueurs d'espoir et on a envie d'y croire et on repart. Et puis le boulot d'enquêteur, c'est une envie de découvrir. En plus, quand vous voyez la photo du petit Émile, tout le monde est motivé, comme tous les Français ont envie de savoir ce qui s'est passé. Les gendarmes, les policiers, bon, c'est la même chose, ils ont envie de trouver.
Et à partir de quand on arrête les investigations?
Vous savez, il y a eu des affaires qui sont restées très très longtemps encore d'actualité.
L'affaire Grégory, hein, le général peut en parler.
Hein. Oui, l'affaire Grégory. Et puis
vous vouliez dire quelque chose sur l'affaire Grégory, mon général?
Oui, sur l'affaire Grégory, elle est emblématique parce qu'on l'a fait ressortir justement en disant mais ce sera peut-être une affaire non résolue comme l'affaire Grégory. Alors, on n'est pas du tout. C'est comparaison n'est pas raison. L'affaire Grégory, si elle avait eu les moyens d'investigation scientifique actuellement, en moins d'une semaine, elle aurait été résolue. Oui. Donc là-dessus, pour les traces qui n'avaient pas pu être exploitées, etc. Là. En revanche, ce qui est rapproche de l'affaire Grégory, c'était cette impression de huis clos. où on a une famille et un hameau avec un village en dessous où tout le monde se connaît, mais tout le monde
se soupçonne maintenant. Cette espèce de microcosme, de huis clos.
Voilà.
Je pense que l'affaire Grégory, c'est quand même le symbole de tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Ah, mais tout à fait. Et il y a eu la création de la sous-direction de la police scientifique pour la police nationale, la création de l'IRCGN par la suite pour la gendarmerie. Et aussi, avec les médias, qui ont eu une action particulièrement désastreuse parce qu'ils faisaient l'enquête avant l'enquête, la création de l'obligation de communiquer par le procureur et de faire des points de façon à ce qu'on puisse sauvegarder les éléments sans mettre en péril l'enquête.
Vous dites, Christian Flech, l'affaire Grégory, c'était une illustration de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que là, dans cette enquête sur Émile, il y a eu des erreurs, selon vous?
Franchement, je ne connais pas les dessous de l'enquête, les détails des enquêtes. Ce que je vois sur la communication, le général en parlait, l'évoquait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'enquête, elle est discrète. Il y a des investigations qui sont inconnues du grand public et inconnues de la presse, et tant mieux. Ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Grégory, qui se faisait quasiment à livre ouvert. Et c'est très important parce que le procureur fait ses points presse au moment où il le juge utile et il l'a fait aujourd'hui et c'était utile pour tout le monde. On a appris un certain nombre de choses. On a en plus vu que la piste familiale n'était pas complètement fermée. Enfin, il fait des informations qui sont utiles et il reste encore des éléments confidentiels et tant mieux.
L'autre point commun avec l'affaire Grégory, c'est que l'affaire Grégory, il y a un faux témoignage. C'est-à-dire, c'est pareil, dans un tout petit espace, il y a une voisine qui est avec son amant. Et elle n'a pas du tout envie de dire qu'elle est avec son amant. Ouais, et donc, elle dit qu'elle est avec son mari à un autre endroit. Et en fait, ça va perturber l'enquête initiale. Ça fait partie des éléments pour perturber l'enquête initiale. Tout ça pour dire que là, dans l'affaire Émile, il n'y a quand même que deux témoins. Il y en a. Alors, on a l'entendu, je sais que Valentin, il n'est plus d'accord avec ça. Il m'a dit hier, c'est pas vrai. Mais on a dit pendant des mois, il y a un témoin qui l'a vu descendre, un témoin qui l'a vu monter.
C'est vrai. Mais ils ont eu une version, ils se sont accordés sur la version le jour de la mise en situation. Et ils ont déclaré aux enquêteurs, on l'a tous les deux vu descendre. Et
c'est mais ça, alors, attendez, ça veut dire quoi? Ils se sont mis d'accord?
Non, c'est pas qu'ils se sont mis d'accord, mais ils étaient. Le jour de la mise d'accord. en situation, ils sont tombés d'accord.
Ah oui, d'accord.
Il n'y avait pas deux versions.
C'est la difficulté des témoignages, parce qu'on voit bien que dans tout ce petit huis clos, on peut mettre la palynologie, on peut mettre la science, les bornes, etc.
Non.
Ben, au fond, ça repose beaucoup sur. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Et là, malheureusement, dans cette.
Non,
pas seulement. Mais là, malheureusement, dans cette heure.
Mais est-ce qu'on sait d'ailleurs ces deux témoins?
Personne n'a rien vu.
Ces deux témoins, parce qu'on sait qu'il y a eu de nouvelles auditions pendant les gardes à vue. Est-ce qu'on sait si ces deux témoins ont été de nouveau interrogés?
Je sais que j'ai échangé avec l'un de ces témoins oculaires pas plus tard qu'il y a une heure et demie et il n'avait pas été de nouveau entendu.
Et la piste familiale, donc, n'est. Pas refermé, malgré le fait que les grands-parents, l'oncle et la tante sont ressortis libres sans aucune charge retenue contre eux. Ils sont quasiment allés au bout de la garde à vue. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que s'il y a des nouveaux éléments d'enquête, a priori, ils ne pourront pas être replacés sous le régime de la garde à vue, mais ils pourront être entendus par un juge d'instruction?
Sur le temps qui reste, ils pourront. Il reste un petit reliquat, mais trop résiduel. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a surpris, c'est qu'ils prennent autant de temps sur la garde à vue sans se ménager, par exemple, 10-12 heures pour faire une reprise de garde à vue par la suite, ce qui se fait fréquemment dans les enquêtes. Ils seront simplement convoqués par un juge d'instruction, s'il y a des éléments, et il faudra des éléments supplémentaires à ceux qui ont été découverts jusqu'à aujourd'hui, manifestement. Mais en l'état, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, il n'y a pas de charge suffisante, et donc il faut en tirer les conclusions qui s'imposent, tout simplement, à mon sens.
L'enquête va se poursuivre. Alexandra, Raphaël le disait tout à l'heure, il y a 555 millions de données de communication qui sont en cours d'analyse. Quelles sont les autres pistes qu'on va explorer ou qu'on va reprendre?
Les enquêteurs continuent à la fois l'exploitation scientifique. On l'a vu à l'instant, ce travail titanesque avec ce que nous expliquait le général Daoust. Il y a énormément de conclusions qui peuvent être menées grâce à ces expertises scientifiques, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Retrouver par exemple le biotope d'origine, celui qui est retrouvé sur le t-shirt, à quel endroit cela correspond. Donc, il y a tout ce travail scientifique et toujours le travail qui va se poursuivre de confrontation entre les auditions qui ont pu être menées. Les gendarmes lisent et relisent les procès-verbaux pour voir s'il pourrait y avoir une contradiction qui surgit à un moment, qui pourrait justifier de réentendre un témoin en audition libre, peut-être même un jour en garde à vue. Tout ce travail se poursuit et ne s'arrête pas au moment où les gardes à vue se sont terminées, bien au contraire.
Et puis on attend les résultats aussi des analyses qui sont menées sur les deux véhicules qui ont été saisis, le véhicule des grands-parents, la voiture des grands-parents, et une remorque à chevaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces analyses?
Alors, on peut trouver beaucoup de choses. Hein. Que ce soit, par exemple, dans le coffre du véhicule, on peut, même s'il a été lavé, on peut retrouver de l'ADN et très profondément jusqu'à la base du coffre sous les tapis. Parce que retrouver l'ADN de l'enfant dans le véhicule du grand-père, ça n'a aucun sens. C'est un familier. En revanche, dans le coffre et profondément, c'est une autre histoire. Même chose pour le van. Il était arrivé la veille. Est-ce qu'il s'était déjà amusé et à monter dans le van ou pas? Donc là, ça fera l'objet d'investigations. Si jamais on retrouvait des traces, que ce soit des traces de sang, de l'ADN, etc. Mais ça va être un travail de fourmi, parce qu'un van dans lequel on transporte les chevaux, c'est de la paille, c'est du fumier, c'est
des
résidus, etc.
Est-ce qu'il y a un biotope aussi, le van?
Ah oui, et il est très large là, parce qu'il est emporté aussi avec les chevaux qui viennent régulièrement à l'intérieur, qui déposent une partie des acariens qu'ils ont, eux, qui sont des acariens très particuliers pour la race équine, qui dissimulent tout autour. Il y a tout ce que l'on trouve dans les pailles, tout ce que l'on trouve dans le fumier, où il y a à la fois des microbes que l'on peut connaître, hein, on parle du tétanos par exemple, qui est bien connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont bactériens ou autres et qui existent. On voit qu'il y a énormément de choses. Et il y a aussi beaucoup de pollen, parce que comme ils mangent des plantes, eh bien, ça ressort de l'autre côté. Ce qui rentre d'un côté ressort de l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça sera retrouvé aussi.
Et donc, comparer le biotope qui a été retrouvé sur les ossements du petit Émile avec celui de la remorque.
Oui, on retrouvera. Ça, c'est sûr que si ça c'est très proche de ce monde équin dans un endroit qui est particulièrement fermé comme le van, là, on aura vraiment de quoi rapprocher. Mais on voit que le travail va être long. Parce que aller chercher de l'ADN d'un enfant au milieu de tout ça, des traces de sang, peut-être qu'on y arrivera avec du Blue Star, mais ça va être un travail long et vraiment...
Surtout qu'on voit que les ossements, l'expertise, les nombreuses expertises qui ont été menées sur les ossements, ont parlé un an après, puisque ils ont été découverts en mars 2024. Oui. Donc il faudra attendre
tout
combien de temps avant d'avoir les résultats de ces analyses?
Le temps que le véhicule. Vin soit passé au peigne fin.
Ouais. Donc, et ça peut prendre combien de temps?
Un certain temps.
C'est-à-dire, ça se compte en...
On ne peut pas savoir, ouais. Honnêtement.
Je vais terminer sur une remarque un peu cynique, mais le procureur de la République, en disant que la piste familiale n'était pas totalement écartée, en expliquant que le corps a été retrouvé à proximité, il cible une population du Haut-Vernay, où tout le monde maintenant va commencer à se regarder un petit peu de travers.
Donc il met une forme de pression sur le hameau?
En tout cas, ça va être le cas. Et peut-être que de cette pression naîtra un témoignage.
L'enquête, inévitablement, va se recentrer autour de ce hameau du Haut-Vernay. Après donc les révélations d'aujourd'hui, l'intervention d'un tiers, c'est une certitude. Émile a été tué, accidentellement ou volontairement, ça on l'ignore encore pour l'heure. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir notre document Ligne Rouge, Émile, le mystère s'épaissit. En voici un extrait.
Selon l'avocat d'Anne Vedovini, revenir sur cette journée tragique a été douloureux pour elle.
Voilà une grand-mère, endeuillée par la perte d'un petit-fils dans des circonstances que chacun sait pour être parfaitement épouvantables, et qui pendant 48 heures vont être rappelées à cette grand-mère endeuillée par le moindre détail, l'état complet des investigations conduites au sujet du décès de son petit-fils. On a forcément du mal à se figurer l'intensité qui règne alors.
Les quatre gardés à vue n'ont pas été confrontés directement. Ils n'étaient pas tous interrogés au même endroit.
Voilà, avant de découvrir l'intégralité de ce document Ligne Rouge, en quelques informations, ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse aujourd'hui du procureur, Alexandra?
Eh bien que les quatre personnes qui étaient en garde à vue, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère d'Émile, un oncle et une tante, ont été remis en liberté. Aucune poursuite à leur encontre n'a été retenue. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'intervention d'un tiers désormais est une certitude pour les enquêteurs. parce que les ossements ont été déplacés par une main humaine. Et pour les enquêteurs, il y a donc la conviction que quelqu'un sait quelque chose quelque part. Mais pour l'instant, ce secret n'a pas été dévoilé. Et les enquêteurs continuent de travailler pour découvrir ce qui a pu se passer.
Merci beaucoup, Alexandra. A-t-il été tué accidentellement ou volontairement? On ignore. En tout cas, on a la certitude ce soir qu'un tiers est donc intervenu. Émile, le mystère s'épaissit. Notre document Ligne Rouge est à retrouver dans quelques minutes. À tout de suite.